des Panama Papers. C'était en avril 2016, souvenez-vous, 11,5 millions de documents confidentiels. Ils viennent du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca et ces documents, un lanceur d'alerte, les avait transmis à la presse. Bonjour Waoub Fayoumi, cette quantité énorme d'informations concernait la création de sociétés offshore.
Oui, et ces informations seront pendant des mois recoupées, triées, vérifiées par un collectif de journalistes, le consortium international des journalistes d'investigation. Et lorsque ces journalistes vont les publier, elles vont faire l'effet d'une bombe. 214 000 sociétés offshore mises à jour et des hommes d'affaires, des chefs d'État, des artistes, des sportifs, tous impliqués dans des montages financiers, dans des paradis fiscaux.
Et à l'époque, Waoub, ces révélations ont provoqué un séisme tout autour de la planète.
Oui, en Islande, par exemple, le Premier ministre Sigmundur Davíð Gunnlaugsson a même dû démissionner. Écoutez cette archive de Julien Geffredo.
Lors d'une interview à la télévision suédoise, le Premier ministre tentait très péniblement de justifier son implication dans cette société Wintris.
Ma femme a vendu des parts de l'entreprise familiale. Cela a été géré par une banque et la banque a pris certaines dispositions. Et le résultat, c'est cette société. Je ne sais pas comment fonctionnent ces choses.
Une interview qu'il interrompt d'ailleurs brusquement quelques secondes plus tard. Bien qu'il continue de le nier confusément, M. Gunnlaugsson détenait bien cette société avec sa femme jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle il lui en cède sa moitié pour un dollar symbolique.
Alors, quel bilan tirer après ces révélations inédites? Waoub Fayoumi, on en parle tout de suite avec votre invité.
Bonjour Xavier Kounas.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Soir, spécialisé dans les affaires économiques, et vous avez surtout participé en 2016 à cette large enquête d'investigation pour laquelle vous avez d'ailleurs reçu le prestigieux prix Pulitzer du reportage, collectivement évidemment avec tous les journalistes membres du consortium international du journalisme d'investigation. Alors aujourd'hui, un peu plus de 5 ans plus tard, Xavier Kounas, pouvez-vous dire si ces révélations ont eu des conséquences notables, entre autres pour limiter l'évasion fiscale?
On a toujours l'impression que tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses qui ont changé et que ça fait du bien de le dire. Alors, c'est des choses qui bougent dans tous les sens, hein, mais très concrètement, au centre des Panama Papers, c'était le cabinet Mossack Fonseca, un cabinet qui crée des sociétés offshore basées au Panama, mais avec des antennes un peu partout dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, cette société a disparu, elle a été mise en liquidation et les responsables de la société sont sous enquête pénale. Ils sont même passés par la case prison. Il y a des dirigeants qui ont démissionné suite aux révélations, le premier étant le Premier ministre d'Islande suite à une manifestation incroyable dans les rues, et il y en a d'autres au Pakistan, donc il y a eu des effets directs des révélations. Et puis évidemment, dans un temps un peu plus long, il y a les modifications, en tout cas les réflexions sur les textes législatifs. Il faut quand même reconnaître que les Panama Papers ont permis au niveau européen de mettre sur pied une commission d'enquête pour essayer de comprendre quelles sont les failles dans la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, et l'évasion fiscale d'ailleurs. Idem au niveau belge, hein, c'était une commission spéciale, mais on s'est posé les mêmes questions. On s'est sorti ça des rapports avec des dizaines et des dizaines de recommandations. Et donc oui, il y a des éléments très concrets qui en sont sortis et qui commencent à être mis en application. Hein. Par exemple, les pays doivent aujourd'hui échanger automatiquement toute une série de données financières. Alors tout le monde ne joue pas encore tout à fait le jeu, mais la Suisse est dedans. On peut aujourd'hui savoir, dès qu'on ouvre un compte en Suisse, un Belge, les informations remontent jusqu'à la Belgique de façon purement automatique. C'était impensable il y a quelques années. Donc il y a des évolutions notoires dans l'échange d'informations surtout. Et voilà, ce sont des petits pas. Alors il y en a encore pas mal à faire, mais c'est quand même un bon début.
En illustration de ces petits pas, en Belgique, il y a aussi eu des montants récupérés par l'administration fiscale après les Panama Papers. Écoutez les explications que nous a donné le ministre fédéral belge des Finances, l'Open VLD, Vincent Van Petegem.
Pour donner un montant, dans l'administration générale de l'inspection spéciale des impôts, il y a déjà 28 dossiers qui ont déjà été clôturés, générant une recette d'un peu plus de 40 millions d'euros. Mais de nouveau, bien sûr, c'est un montant qui va être encore plus élevé parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers qui sont en cours de traitement par l'administration dont on n'a pas encore les résultats.
Alors, des millions d'euros récupérés par l'administration fiscale en Belgique suite à ces révélations. On vient de l'entendre, Xavier Kounas. Que pensez-vous du bilan de vos révélations ?
Le bilan des Panama Papers en tant que tel, il n'est pas énorme, hein, il faut le dire. Il faut aussi reconnaître que dans les cas belges des Panama Papers, c'était pas là que les dossiers étaient les plus croustillants. Donc ça me surprend qu'à moitié. Par contre, sur l'ensemble des révélations, des leaks, je me souviens qu'on a fait un bilan il y a quelques années maintenant. On était déjà à plus de 600 millions collectés par l'État belge. Et puis si on fait le calcul, ce qu'on avait fait aussi avec nos collègues internationaux au niveau international, ça se chiffre en milliards le gain pour le fisc. Donc c'est aussi une des conséquences de ce travail journalistique, c'est qu'on met en avant des pratiques qui donnent naissance à des enquêtes fiscales. Il y en avait de mémoire plus de 250 en Belgique sur les Panama Papers. Et bien après, ça rapporte de l'argent dans les caisses de l'État.
Alors plus largement, un petit état des lieux qui date de 2020, 360 milliards d'euros partiraient chaque année dans les poches d'entreprises et de particuliers au détriment des États dans le monde. C'est un chiffre qui a été publié par l'ONG American Tax Justice Network, des chiffres qui donnent le tournis, hein, Xavier Kounas. La Commission européenne a avancé sur beaucoup de points. Hein. Vous avez cité l'obligation d'information entre États. Il y a aussi l'obligation de reporting, c'est-à-dire de publication des chiffres fiscaux des entreprises. Il y a le paquet fiscal qui a été adopté en 2021 par la Commission européenne. Les choses bougent, mais est-ce que tout ce système ne présente pas toujours des failles importantes ?
Si, sans doute, mais je pense que la première, c'est qu'on a beau faire toutes les législations qu'on veut, il existera toujours des gens qui veulent les contourner, et donc il faut que la force de contrôle et de sanction soit puissante, c'est-à-dire la police, les inspecteurs fiscaux et la justice. Là-dessus, je pense clairement qu'aujourd'hui, on manque de moyens et on n'investit peut-être pas encore assez dans tous ces organes qui permettent de réguler, de veiller au bon respect des lois. Et donc c'est sans doute la faille principale à mes yeux. Après, dans les règlements, il y a encore pas mal de choses qu'on peut évidemment constater. On voit par exemple que quand on oblige à créer une base de données avec les bénéficiaires économiques des sociétés, c'est aussi une nouvelle législation, on est obligé de dire qui se cache derrière une société, eh bien il existe tout un tas d'exceptions pour ne pas devoir déclarer si on est réellement le bénéficiaire. Eh bien là-dessus, pour gagner la partie, il faut des textes forts et il faut des moyens.
Donc le chemin est peut-être encore long. Je vous propose d'écouter le juge d'instruction Michel Claise. Il est spécialisé dans la poursuite de la fraude fiscale et il dénonce depuis des années ce manque de moyens que vous évoquez. Je lui ai tout d'abord demandé de réagir au montant récupéré par l'administration fiscale en Belgique après les révélations des Panama Papers.
C'est rien du tout. Si vous prenez le phénomène global d'ailleurs du ministère des Finances pour l'évaluation de l'évasion fiscale illicite, hein, je ne vous parle pas de l'argent qui part de manière licite, on l'estime déjà à 30 milliards. Alors bon, il y a de quoi pleurer. Et en réalité, il faut aussi se méfier, et ça j'attire l'attention du citoyen sur ce point, c'est quand des chiffres sont annoncés par le SPF Finance ou par le monde politique concernant les recettes fiscales, elles incluent les enrôlements et pas nécessairement l'argent rentré dans les caisses de l'État. Or, vous avez des instructions qui sont données aux membres de l'administration fiscale de procéder à des enrôlements près de sociétés qui ne sont que des coquilles vides. Et à partir de ce moment-là, on a le sentiment d'avoir un montant de récupération qui ne correspond pas à la réalité des montants encaissés en termes réels dans les caisses de l'État. Mais le manque cruel de moyens, il est là. Et la volonté politique de répondre à ce manque cruel.
Xavier Kounas, qu'est-ce que vous pensez des propos du juge Michel Claise ?
Mais c'est pas la première fois, hein, qu'il nous tient ce genre de propos. Donc je pense que c'est l'illustration de ce que j'ai essayé de dire plus tôt. Et c'est pas le seul à dire ça au sein de la police. C'est sans doute celui qui le dit souvent le plus fort. Je serais curieux que l'administration fiscale nous fasse le calcul, mais qu'en fait un inspecteur fiscal rapporte plus d'argent aujourd'hui que ce qui me coûte à l'État dans son salaire. Il faut dissuader les gens qui ont fraudé, qui ont été trop loin dans la fraude. C'est parfois un peu trop facile de s'en sortir avec une petite transaction ou avec un dossier enterré parce que la justice est débordée.
Est-ce que les dirigeants politiques sont conscients et est-ce qu'ils ont la volonté d'aller jusqu'au bout de cette lutte contre la fraude fiscale ?
J'ose espérer que oui. J'ai l'impression qu'à une époque où on dit à longueur de journée que les finances de l'État sont dans le rouge, dans le plus que rouge, et qu'on a besoin de recettes nouvelles, il y a quand même là de l'argent à aller chercher. C'est pas pour le plaisir, mais c'est une question d'équité fiscale. À un moment que tout le monde paye sa juste part d'impôt, ça semble assez simple à dire comme ça, mais dans les faits, c'est pas le cas. Donc oui, je pense que les autorités ont intérêt à le faire. Je pense que même électoralement parlant, aller rechercher de l'argent là, ça me semble pas être la chose qui va le plus crisper les électeurs. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une ligne ajoutée dans un budget puis qu'elle s'évapore dans les faits, c'est qu'on arrive réellement à aller les chercher, ces millions, là où ils sont.
Alors, dernière question, Xavier Kounas, on parle parfois d'évasion fiscale, parfois d'optimisation fiscale, parfois de fraude fiscale. Alors ce sont des termes qui recouvrent parfois des réalités différentes, des pratiques illégales ou pas. Comment fait-on la différence lorsqu'on est journaliste et qu'on enquête sur ce genre de dossier ?
En tant que journaliste, on essaye de trouver des cas qui sont d'intérêt public, c'est-à-dire soit de méthodes ou de schémas d'optimisation, des mécanismes qui se répètent pour aller dissimuler de l'argent, soit parfois des pratiques grâce aux mails ou aux documents qu'on peut avoir qui montrent qu'on a véritablement voulu cacher ou dissimuler une part de sa fortune. Après, nous, notre travail s'arrête là, c'est-à-dire à juger qu'un sujet est digne d'intérêt et mérite d'être exposé sur la place publique. On n'est pas là pour dire est-ce qu'une pratique est légale ou pas. C'est le rôle de la justice derrière, justement, des enquêteurs fiscaux ici aussi, dans les cas où ça devient une enquête administrative. Mais c'est à eux d'étudier le dossier, à regarder si une personne a caché son argent ou pas. Et dans les faits, soyons clairs, tous les dossiers ne sont pas illégaux et tous les dossiers ne sont pas légaux non plus. Il y a un juste milieu à trouver, un cas par cas qui nous échappe un peu, et je trouve ça très sain d'ailleurs, c'est aux autorités à faire le travail. Je voudrais juste dire à ceux que j'ai souvent entendu me répéter « Oui, mais vous savez, tout ça c'est très bien, mais toutes ces pratiques sont légales. Si toutes les pratiques étaient légales, la Belgique n'aurait pas pu récupérer plus de 600 millions d'euros, qui sont évidemment des amendes pour fraude, et au niveau international on n'aurait pas récupéré plusieurs milliards sur base des Panama Papers si tout avait été déclaré. Donc forcément, c'est qu'il y a aussi des pratiques illégales, et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de raisons de détenir des sociétés offshore, sauf quand on a véritablement quelque chose à cacher. Donc par le passé, il y avait cette possibilité de payer le moins d'impôts possible, sauf qu'aujourd'hui, il existe une taxe caïman en Belgique qui dit si votre structure n'est pas soumise à l'impôt dans le pays où elle doit le payer, eh bien alors on le paye en Belgique. C'est-à-dire que si vous payez du 0% aux îles Vierges, ce n'est pas possible, vous devez le déclarer en Belgique et payer l'impôt normal. Alors quel intérêt d'aller faire sa société dans les îles exotiques plutôt que de la faire ici en Belgique, vu qu'à la fin le taux d'imposition est censé être le même. Donc je pense vraiment que, allez, on peut parler, hein, y a des cas évidemment particuliers, et ça peut être un peu plus technique dans certains volets, mais grosso modo, les bonnes raisons d'avoir une société offshore dans un paradis fiscal, elles me semblent très très maigres.
Merci beaucoup.